C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
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 Bonsoir. Bonsoir.
C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonjour, bienvenue dans ce Canu Info du mercredi 17 mars 2020. Un Canu Info confiné, un Canu Info essentiel et express.
Situation oblige, on prépare les infos à la maison avec les moyens du bord. Nos super équipes techniques de la radio ont mis en place tout un tas d'outils pour pouvoir malgré tout continuer ça depuis chez nous. Chose que l'on n'aurait même pas pu imaginer dans nos rêves les plus fous. Franchement, c'est la classe. Alors tout d'abord, un énorme merci à elle. Canu prouve encore une fois que malgré tout, on est là.
On est là, on est là. Canu prouve encore une fois qu'on est là. Et donc ce soir, le Canu Info du confinement du mercredi 18 mars 2020. Je ne sais pas quelle heure il est précisément à l'heure où vous écoutez ça, vu que nous c'est tout préenregistré, exceptionnellement pas en direct ce soir. Ce qui ne va pas nous empêcher de vous raconter que quand Macron parle de l'État-providence, ce n'est pas pour tout le monde. Et puis, du fait que, confinement ou pas, les entreprises vous le recommandent, allez bosser. Une fois qu'on aura fait ça, ce sera déjà l'heure de notre chronique « Il faut que ça se sache », avec des nouvelles de la Grèce, ou ma foi, bon, la Grèce, vous voyez quoi. Et le fascisme qui s'impose dans le plus grand camp de réfugiés d'Europe.
Canu Info. Du mercredi.
Vous avez certainement écouté les interventions de Macron, puisque la deuxième a fait 35 millions d'audiences, un chiffre à peine supérieur au relevé médiamétrie de Radio Canu. Le ton était martial, il a pris son costume de grand homme, on voit qu'il a essayé de lancer des phrases choc qu'il voulait faire inscrire dans les livres d'histoire. La première fois c'était un peu raté, puis la seconde il a balancé à tout va « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». C'est simple, rapide et efficace. C'est bien connu dans l'histoire, quand on ne sait pas comment faire du commun dans un pays, une bonne petite guerre et c'est reparti. Il va y avoir des oubliés, c'est sûr. Les associations qui soutiennent les exilés vers Calais et la région parisienne ont adressé une lettre ouverte au gouvernement. 24 associations au total, pour leur rappeler que Macron a précisé qu'on vivait la plus grande crise sanitaire jamais connue dans ce siècle. Cette crise touchera celles et ceux qui sont les plus en galère. La situation des personnes exilées, environ 800 personnes sont concernées à Calais et sa région, 500 en région parisienne, principalement à Aubervilliers. Pour elles et pour eux, c'est l'absence d'hébergement. Des personnes qui vivent à 3 ou 4 par tente, sans accès à l'eau courante, des services d'association réduits à peau de chagrin. Bref, impossible pour ces personnes d'appliquer le moindre geste barrière, de pouvoir se protéger avec les consignes de confinement. Ils et elles sont en première ligne, font partie des personnes les plus vulnérables. Que va-t-il être mis en place pour elles? Comment va-t-on assurer leur sécurité sanitaire? La préfecture de Calais a pour l'instant simplement répondu que, je cite, « pour l'heure, nous n'avons aucun élément pour répondre à ces questions. La préfecture d'Île-de-France botte également en touche. À l'heure actuelle, on gère les urgences. Point barre. Sous-entendu, l'État-providence, ce n'est pas pour eux.
Canu Info.
Eh bien, pendant la pandémie, la lutte des classes continue. Et par ici, en Europe, tout se passe un peu comme si les patrons et le gouvernement trouvaient que des ouvriers, il y en a des tonnes. Si on en perd quelques-uns, quelques-unes dans la bataille, ce sera toujours ça de moins à Pôle emploi. Ce qui est essentiel, c'est de maintenir la production. Alors pas seulement la production de choses essentielles, ça on serait tous d'accord, hein, la bouffe, les médicaments, les soins. Non, non, là c'est bien l'histoire de maintenir le maximum de toute la production de tout et de n'importe quoi. Déjà que le CAC 40 se casse la gueule, il faudrait d'abord et avant tout limiter les dégâts. Alors, il y a la consigne générale, pour vous et moi, pour tout le monde, qui est de rester chez soi, ne pas bouger de chez soi. Même pour aller à l'enterrement d'un proche, pas le droit de sortir, c'est Edouard Philippe a bien précisé cette histoire d'enterrement hier soir. Pas le droit de sortir. Par contre, pour aller bosser, alors là, on peut sortir de chez soi, on doit sortir de chez soi. On peut rencontrer d'autres gens, on peut se tenir à 20 cm d'un collègue pendant 8 heures dans la journée. Vous en faites pas. Les entreprises doivent prendre toutes les mesures pour assurer votre sécurité au boulot. Elles doivent fournir des gants, du gel, des masques. Enfin bon, ça surtout s'il y en a de disponibles, hein, et de faciles à se procurer pour votre patron. Autrement, bah, commencez toujours par travailler. On verra bien si le matos d'hygiène arrive à un moment ou à un autre. En Italie, la semaine dernière, des grèves ont éclaté un peu partout. Les prolos n'avaient pas tellement envie finalement d'être contaminés au boulot, bizarrement. Alors parfois c'est des syndicats qui ont lancé le truc, parfois, mais en fait plus souvent semble-t-il, les syndicats ont suivi. Les revendications syndicales, sont la plupart du temps, alors d'avoir l'arsenal, gants, gel, masque, blablabla, mais les syndicats italiens semblent trouver, comme le patronat et comme le gouvernement, qu'il faut continuer à bosser coûte, que c'est quand même ça qui est très important. Ce qui fait que, dans la plupart des usines italiennes, les gens se sont mis en grève spontanée, sans attendre le syndicat, et ont surtout leur revendication, c'était surtout d'arrêter d'aller bosser, quoi. De ne pas foutre les pieds sur leur poste de travail. Pas avant la fin de l'épidémie, en tout cas. Alors, je suis pas arrivé à avoir d'infos sur l'évolution de la situation depuis le début de la semaine en Italie, mais pour la semaine dernière, je vous conseille la lecture de l'article paru sur lundi matin qui s'appelle « Italie sur l'épidémie d'urgence phase 3 ». Bon, le titre est nul, mais l'article, par contre, est passionnant. Et en France, pendant ce temps, on en est où ? Eh ben, il semble qu'un certain nombre de sections de la CGT, comme bien sûr Laurent Berger de la CFDT lui aussi, soient sur cette même position que les syndicats italiens, que les gouvernements de partout et que le patronat de partout. Filez-nous des gants, mais moyennant quoi, on va aller bosser. D'autres syndicats sont plus, disons, raisonnables. Attentif aux préconisations des Toubibs, et Sud, par exemple, encourage à exercer massivement son droit de retrait. Alors, moi, j'ai pu partir en reportage sans quitter ma chambre confinée. Voici d'abord l'interview de Michel, qui bosse chez Renault Trucks. Michel, tu travailles à Renault Trucks, et vous avez travaillé hier, et puis ce matin, on apprend dans le Progrès que Renault Trucks a décidé de fermer ses usines. Dans le Progrès, ça a l'air de s'être passé à cause de la gentillesse du patron. Est-ce que toi, tu peux nous raconter ta journée d'hier ?
Alors déjà oui, je travaille à Renault Trucks à Vénissieux, là, dans la région lyonnaise. Le patron, il l'a pas fait par gentillesse. Il voulait pas fermer en fait les sites de production. Jusqu'au dernier moment, ils ont essayé de faire produire sans moyen de protection d'ailleurs trop. Et c'est vraiment aussi la pression de toutes les entreprises qui annonçaient qu'ils fermaient. Et aussi, il y a eu pas mal de débrayages dans les usines, à Bourg, en bref, à l'usine de Blainville dans le Calvados, et puis à l'usine moteur de Vénissieux, là où ils bossent, où les gens ont arrêté le travail, parce que bon, voilà, ils demandaient de pouvoir se mettre en sécurité, voilà, puisqu'on travaille les uns sur les autres dans ces entreprises, on ne respecte pas du tout les mesures que met en avant le gouvernement. Là, ça fait plusieurs jours que l'inquiétude a grandi hein, dans les centres, parce que comme voilà, tout le monde entend les discours du gouvernement, les médecins, les préconisations, et voilà, même le fait d'avoir un mètre de distance sur une ligne de montage, c'est un peu compliqué d'être à un mètre de distance. Voilà, les gens, ils sont vraiment littéralement les uns sur les autres, et donc c'est cette inquiétude qui a tourné à la colère. Voilà, alors donc les gens spontanément ou moins spontanément, ça dépend aussi des équipes militantes qui sont en place, sont allés voir la direction pour leur dire arrêtez de nous prendre pour des cons, s'il faut mettre le confinement, c'est pour tout le monde.
Et est-ce que la direction vous proposait des masques, du gel, du machin, du truc, ou est-ce que la question n'était pas vraiment là?
Ah ben, déjà, il y a des choses qui, sur le papier, on avait le droit à des masques, du gel, du savon, des choses pour accueillir les camionneurs qui arrivaient de tous les pays, notamment d'Italie, où il y avait déjà des zones où il y avait beaucoup de gens qui étaient... qui était touché, mais sur le papier seulement, parce qu'en fait, très vite, nous, on n'a jamais eu un seul masque. Voilà. Et même des gants, il n'y en avait pas. Donc, non, il n'y a pas... Il n'y a aucune vraie mesure. La seule vraie mesure qu'ils ont prise, c'est éviter de vous serrer la main, quoi.
Quelle forme ça a pris précisément? Les gens, ils ont parlé de droit de retrait, ils ont parlé de grève, ils ont parlé de comment ils ont fait?
Bah en fait, à Bourg-en-Bresse, c'est vraiment les gens ils sont dit en droit de retrait, mais en grève en même temps. Enfin, parce qu'un droit de retrait, c'est un peu pas si simple que ça. Nous, à Vénissieux, on a dit on arrête le travail, on va voir la direction, nous pour leur dire qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous faire travailler dans ces conditions. On a dit, et nous, si vous voulez nous compter en grève, vous nous comptez en grève, c'est pas le problème, mais c'est pas, nous, on reprendra pas le boulot. De toute façon, si vous ne nous mettez pas à la maison, payé, bien sûr. Donc, ça a pris plusieurs formes, mais en fait, c'est souvent quand même des débrayages, parce que, des grèves, voilà. Après, je pense qu'il y a un certain nombre de directions qui vont pas compter ça en grève, pour pas mettre de l'huile sur le feu, mais voilà.
Et les directions, sur le coup, elles ont réagi comment? Elles ont tout de suite nous reconnu que c'était raisonnable ce que vous demandiez, ou ça a été plus tendu que ça?
Ah non, moi je pense que notre direction, mais ça doit être propre à toutes les entreprises de ce pays et du monde, c'est qu'en fait, ils voyaient que le côté financier, c'est-à-dire que les usines marchent dans l'automobile, c'est très très mondialisé et c'est en flux tendu, donc dès qu'une usine s'arrête, entraîne en cascade des arrêts dans toute l'Europe, par exemple. Et donc, eux, ils voyaient que ça. Il a fallu quand même que, les travailleurs, là, quand ils ont chopé le directeur, et ils m'ont dit, quelle vérité. Et en fait, eux, pendant très longtemps, ils ont parlé que de oui, mais la production, oui, mais faut qu'on continue, c'est notre gagne-pain. Ils étaient sur. Ils sont restés sur le financier, sur. Comme s'il n'y avait pas une pandémie mondiale partout dans le pays, voilà.
Mais finalement, ils ont fini par dire on lâche.
Oui, alors c'est pas que les grèves, c'est aussi parce qu'à mon avis, comme c'est une boîte nationale, quand ils ont vu que Michelin, Peugeot, Citroën et Renault annonçaient qu'ils se mettaient au chômage, je pense que aussi au niveau de leur image, ils n'ont pas voulu trop jouer avec ça, mais c'est sûr que les débrayages, ça compte. D'ailleurs, les secteurs, la preuve, c'est que même les secteurs, on devait arrêter ce soir à 21h45, mais comme les équipes du matin, il y en a un certain nombre qui sont partis en débrayage, en fait, ils ont annulé l'équipe du soir qui restait à la maison, du coup, parce qu'il n'était pas prévu au départ. Donc la pression qu'on leur a mis... ça fait qu'ils ont avancé les mesures de confinement.
Bah écoute Michel, merci pour ce témoignage, mais est-ce que dans la foulée, tu me dirais si tu as une impression, un commentaire, quelque chose sur l'allocution présidentielle de lundi soir?
Ah bah oui, toujours, hein. C'est-à-dire qu'il a répété 36 fois on est en guerre, les gens ont fait tous le même constat, c'est-à-dire on nous dit d'un côté... n'allez pas voir votre famille, fréquentez que 5 personnes, mais par contre, pour aller au boulot, vous pouvez y aller bosser dans des usines de 2000 personnes, où on travaille les uns sur les autres. C'est encore le cas à Saint-Nazaire, par exemple, où il y a eu aussi des grèves de salariés là qui veulent pas... Ils travaillent 10 000 sur le même site, et c'est pas des travails de bureau, hein, c'est des travails où les gens ils sont aussi les uns sur les autres pour produire les bateaux. Donc, en fait, voilà, d'un côté, on nous dit il faut prendre le maximum de précautions, mais les seuls qui semblent épargnés pour ça, c'est les grandes entreprises. Par contre, c'est elles qui touchent le maximum, parce qu'ils débloquent 300 milliards d'un seul coup pour aider les entreprises. Ils n'auront rien à prouver. Ils vont juste envoyer un mail en disant qu'ils sont en difficulté et paf, ils touchent tout. Par contre, les salariés, même ceux qui seront au chômage partiel, ils vont perdre du sous. Les intérimaires qui se retrouveront au chômage, ils se retrouveront avec des revenus vraiment tirés vers le bas. Voilà, donc ça c'est sûr que en fait, on voit que le fric, même en période de crise, il va toujours au même. Les grandes entreprises de ce pays.
Et ben voilà, merci Michel. Et voici maintenant l'interview d'un postier qui lui bosse à Bellecour. Alors lui, il est assez vénère pour me demander de ne pas citer son nom. J'ai même fait une micro-manip pour qu'on reconnaisse pas trop facilement sa voix. Et il commence par raconter qu'il a reçu, comme toutes ses collègues, une vidéo du grand, grand PDG de la Poste pour motiver les troupes.
Il a dit que, voilà, qu'il nous remerciait beaucoup, que c'était un service public indispensable à la communication pendant les périodes de confinement, que du coup c'était quasiment une réquisition de l'État, qu'on était obligé de travailler et tout ça et tout ça. Il y a ce message, c'est nous, on a une e-bibliothèque sur notre téléphone professionnel, d'accord? Des fois il y a des messages, de trucs, et il n'y a jamais rien. Et là, après ce message, j'ai regardé, il y avait 56 commentaires. Tous les commentaires c'était, et tu filmes ça chez toi, vas-y toi-même, apporter le courrier, nous on n'ira pas, c'est trop dangereux. Et voilà, droit de retrait à Grenoble, droit de retrait partout, non, vas-y toi-même, quelle honte, tout ça, et c'était que des messages comme ça. Et comme ça, écoute, je t'attends une lettre, regarde plutôt tes mails, tout ça, machin. Et puis c'était vraiment, on t'avoue les dirigeants, et vous nous dites merci, et c'est ça, vous foutez toujours notre gueule, et le service public, alors quand on défendait le service public, vous nous disiez tout ce qu'il fallait, que c'était n'importe quoi, et maintenant il faut le défendre, hein. Et du coup, voilà, et c'est la première fois qu'un message a des réactions. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal d'endroits où il y a des gens il y a plein de gens qui ont refusé en fait d'aller bosser.
Ah ouais.
Il y a Sud qui encourage le maximum de salariés à exercer leur droit de retrait s'ils ont pas ils disent qu'ils ont vraiment le droit de le faire s'ils ont pas assez de masques, de gants, de gel, tout ça. Moi je sais que hier matin le chef il est venu avec un chariot de gel hydroalcoolique, il a déjà distribué et c'était pareil, c'était le même lot que la dernière fois, ceux qui sont permis depuis plus de 10 ans. Et l'autre, bon, c'est le gars, bah lui, je sais pas, du coup lui il tourne entre la place de la paix et Bellecour. Du coup, tu vois, la place de la paix, c'est le truc juste en dessous de la place Saint-Tonnerre, la poste Martinière.
Ouais.
Lui il tourne entre les deux, alors je m'a pas précisé, mais je pense que c'est plutôt au guichet à Bellecour. Et lui du coup il est au guichet, il s'occupe, il doit s'occuper plus des pros lui. Et lui, voilà, il était derrière son guichet, et bien sûr, parce que là, la poste nous a rien fourni. Ah si, elle a fourni des lingettes Saint-Marc pour désinfecter nos téléphones professionnels. Voilà. Et du coup, lui, il avait son propre masque et on lui a dit qu'il devait pas le mettre parce que c'était nuire à l'image de la poste. Il faut quand même dire que c'est une honte. Tu sais, je veux dire, la majorité des trucs, c'est des paquets. Je veux dire, on n'a rien. On n'est pas un truc nécessaire pour le pays. Je veux dire, les gens, ils pourront commander leur truc Amazon de merde et pourront le faire dans un mois. Tu sais, c'est bon.
Si je suis à ma place, j'ai déjà brûlé la scène, te voiler la face, c'est te faire croire que l'inventeur du rock n'a pas du tout mes gènes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes. Il faut faire ça dans la rock attitude de toute la bourgeoisie parisienne. Moi j'aime le clean, le blanc de mes pompes, le bleu de mon jean, c'est de l'hygiène. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Marathonie dans la musique, sa dignité, de peur qu'on lui prenne. A fait du blues, du jazz, du reggae, du rap pour lutter et garder forme humaine. Et l'Occident, qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même. Et l'Occident, qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même. Tu as le cuir, la coupe, les clopes, les bottes et la Fender. Les anecdotes, les enfants du rock, la collection des vinyles de ton père. Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines. Qu'est-ce que tu crois, cette histoire est la mienne? Moi je l'ai dans la chair et je l'ai dans les veines. Et puis qu'est-ce que tu crois, cette histoire est la mienne? Avec une gueule caribéenne,
J'ai un penchant, je l'ai jamais caché pour les textiles, autopsie ma haine. Ma bouche à tout, les jours des cartouches à cracher, et du coup cela crée le malaise. Et je suis noir dans un monde blanc, c'est impossible que je le taise. Oui, je suis noir dans un monde blanc, c'est impossible que je le taise. Sur la guitare, la batterie et là-bas, je viens casser l'ambiance et apporter la crasse. Le rock est sans défense, je bouge dans tous les sens, les arroser des sources, lui et donner la chasse. Oui, j'ai des anges, je l'ai dans le sang, dans mon élément, ça me va comme un gant. On m'a pas invité, c'est pas moi qu'on attend, je viens représenter le clan des combattants. Dispo pour ma diaspora, lié par des types mourants. Dispo pour ma diaspora, lié par des types mourants. J'ai dans la chair, j'ai dans les veines, car cette histoire est la mienne. Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Quelques nouvelles de Grèce et c'est pas joli joli. Lundi, un incendie s'est déclaré dans le camp de Moria. C'est le troisième en l'espace de quelques mois. Le précédent avait emporté deux personnes. Lundi, un enfant de 3 ans est mort. Ce camp, où vivent 19 000 personnes, est prévu pour plus de 2 000. C'est dans ce même camp, ainsi que dans les 4 autres camps des îles grecques, que vivent plus de 40 000 personnes. Ces 40 000 mêmes personnes qui vont se retrouver confinées à cause de l'épidémie. L'issue de ce confinement pour ces personnes ne pourra être que fatale pour une immense partie d'entre elles. Leur accès à la médecine est réduite aux ONG présentes sur place et qui se débrouillent avec les moyens du bord. Dans une logique de tri des patients, on imagine assez mal comment les malades les plus graves bénéficieront des soins adaptés. C'est encore plus flagrant en période de crise. Les frontières extérieures à l'Europe sont de vrais mouroirs.
Pour continuer sur Lesbos, le fascisme s'impose dans le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Le contexte est vraiment très tendu dans le camp de Moria à Lesbos et pas seulement relié à l'épidémie de Covid-19. Rappelons que en fin février, la Turquie a brutalement rouvert ses frontières et la situation est devenue intenable depuis sur l'île, qui est déjà surpeuplée. Début mars, il y a eu des militants du parti d'extrême droite grec Obdoré et des partis d'extrême droite de divers pays européens qui se sont retrouvés sur l'île de Lesbos pour mater les migrantes. Ils ont empêché les bateaux venus de Turquie de débarquer et manifesté leur opposition à la création d'un centre de rétention fermé de 7000 places, un nouveau projet de l'Union européenne. Et depuis début février que ces militants d'extrême droite européenne sont venus, il y a une minorité d'extrême droite qui s'est progressivement imposée au sein de la population de Lesbos. Et donc suite au départ de l'extrême droite et des groupuscules organisés en milice s'imposent maintenant sur l'île et font leur loi. Des pans de route sont bloqués, certains bateaux de réfugiés sont empêchés d'accoster, des voitures de location vandalisées, une intimidation et des menaces envers les demandeurs d'asile, donc du racisme et les représentants d'ONG et des journalistes qui ont été malmenés. Je vais donner le témoignage d'un député de Lesbos, Georgios Palis, du moins un ancien député, puisqu'il a été député de 2015 à 2019 et a fait partie du parti d'extrême gauche Syriza. Je cite, c'est la première fois que la police accepte que certaines personnes contrôlent les rues sans les arrêter. C'est la première fois qu'on voit le fascisme à Lesbos et ces personnes veulent se débarrasser des ONG et des réfugiés. Elles s'expriment officiellement et publiquement sur les réseaux sociaux et dans la rue et la police ne fait rien pour les empêcher. Fin de la citation. Donc les habitantes de l'île saturent cette situation, le fait que le camp de Moria soit surchargé, et même les Grecs les plus modérés désormais ne veulent plus de ce camp et ne veulent pas non plus l'ouverture du centre de rétention administratif. Et pour rappel, Lesbos est depuis 2013 un lieu où sont retenus les exilés en attendant que l'Union européenne décide quels sont ceux qu'elle acceptera sur son territoire. Et prévu pour 3000 personnes à sa création, le camp de Moria accueille maintenant 20 000 personnes. Et cette situation de précarité énorme pour des personnes qui débarquent, puisqu'il y a entre l'extrême droite européenne qui viennent les attaquer et la population hostile, et bien les personnes sont vraiment mal accueillies, sachant que les conditions sanitaires sur le camp de Moria sont extrêmement difficiles. Niveau européen, seul le gouvernement allemand face à cette situation a annoncé lundi dernier sa volonté d'accueillir 1000 à 1500 personnes sur l'île. J'en avais parlé au dernier Canu Info, mais je n'ai pas réussi à trouver d'infos depuis qui confirmaient leur arrivée sur le territoire allemand. Donc depuis ce confinement généralisé de l'Union européenne, depuis que Macron lundi a annoncé la fermeture de l'espace Schengen à toute personne étrangère. Donc, situation déplorable sur l'île de Lesbos.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.